Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
À 25 km de Cahors, s'est ouvert le centre Hélène et Jean Baster. Il a pour objectif de susciter, d'accompagner et de soutenir toute initiative autour de l'écologie intégrale. Découverte. Au cœur du Lot, dans le village de Bergantil, le centre Hélène et Jean Baster est un lieu de formation, d'animation spirituelle et bientôt un accueil médico-social. Pour nous présenter ce qui s'y vit, j'ai la joie d'accueillir le père Bertrand Cormier. Bonjour père.
Bonjour.
Vous êtes curé du groupement paroissial Martel-Souillac, c'est donc dans le Lot. À vos côtés, Fabien Rovol, théologien et philosophe. Bonjour.
Bonjour.
Vous réalisez aussi des chroniques radio en présentant les textes du dimanche sous l'angle de l'écologie intégrale et aussi la vie des saints sous ce même angle. Le centre Hélène et Jean Baster a ouvert ses portes en novembre 2023. Quelle est l'origine d'un tel projet, père Bertrand Cormier ?
Nous sommes une petite fraternité qui s'appelle au départ Sainte-Marie-Saint-Jean dans le Lot. Elle est née à partir des intuitions d'un prêtre, le père Jean Lafont. Et puis nous avons évolué de plus en plus vers plutôt les petits frères et petites sœurs de la création. Et à partir de notre expérience de prière dans la nature, de célébration de l'Eucharistie, puisque je suis prêtre, le groupe a pu profiter de ce sacrement et nous avons pu ensemble faire cette expérience de petits frères et petites sœurs de la création dans une optique relativement théardienne, par exemple, et aussi, bien sûr, à travers la parole de Dieu et le partage autour de Saint Jean, notamment la théologie de Saint Jean et celle de Saint Paul. Depuis maintenant une petite dizaine d'années, nous sommes une quinzaine. Et puis le Seigneur a commencé à nous faire comprendre qu'il voulait qu'on passe à l'action. Alors nous avons rédigé une consécration qu'on a appelée « Acte d'offrande au Père Créateur par le Christ universel en amour fraternel ». Le Christ universel, c'est le Christ roi de l'univers, un petit peu contracté et à retravailler d'un point de vue théologique, mais d'un point de vue spirituel, pour nous, ça signifie qu'il épouse, en quelque sorte, et qu'il fait alliance, comme dit le pape François, avec toutes les créatures. Et à la fin de notre acte d'offrande, nous avons écrit « Donnez un petit frère et petite sœur de la création, nous renaîtrons dans le Christ universel ». Et j'ai envoyé cette petite phrase à Monsieur Revol, à Fabien Revol, ici présent. Et depuis, nous avons engagé une relation et ce projet.
Alors, deux petites questions à partir de ce que vous avez dit. Vous avez fait référence à Teilhard de Chardin. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément très familiers avec cet éminent scientifique et aussi religieux, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ?
Teilhard de Chardin était un jésuite. Il est mort en 1955, le jour de Pâques. Donc, on a fêté ça il n'y a pas très longtemps. Et il a beaucoup travaillé, lui-là. Il disait, j'approche la science et le monde en dévot, c'est-à-dire avec dévotion. Et lui, il a particulièrement permis le rapprochement entre la science et la foi, ce qui, pour nous, aujourd'hui, nous paraît presque évident. Pour lui, à l'époque, ça n'était pas du tout.
C'était assez révolutionnaire,
c'était
d'ailleurs.
Très révolutionnaire. Et il a beaucoup travaillé, c'était un paléo-anthropologue, mais aussi un spirituel. Il n'a jamais été théologien de métier, mais il a écrit un texte extraordinaire en 1918 et puis remanié en 1923 qui s'appelle « La messe sur le monde ». Voilà. Et à partir de là, il dit, voilà, puisque je n'ai ni pain, ni vin, ni autel, je m'élèverai au-dessus des symboles et je vous offrirai, moi, votre prêtre, le travail et la peine des hommes.
Ce qui a fait grincer des dents quand même à l'époque.
Ah ben, il a été interdit de conférences en France et même de publications jusqu'à sa mort.
Jusqu'à sa mort, jusqu'à oui. Sa mort. Vous avez parlé de cette petite fraternité, des petits frères et sœurs de la création. Combien êtes-vous aujourd'hui ?
Alors, on est une quinzaine. Nous avons une médaille qui représente la terre en germe avec des petites bulles d'amour. Donc, aimer la création et prier avec elle et pour elle. Et puis, il y a une croix évidée qui est sur cette médaille, pour bien dire, bien sûr, que c'est dans le Christ que nous faisons, cela que nous prions avec et pour la création et toutes les créatures.
Oui, et ça c'est important, puisqu'on pourrait, on pourrait imaginer que servir et protéger la création pourrait être quelque chose qui soit complètement dénué de foi.
Ah, complètement. C'est, on retire la croix du Christ, la croix, et il ne reste plus rien de ce qu'on vit. Et bien sûr, on le vit dans le Christ. C'est sa parole, c'est son esprit qui nous permet d'entrer dans cette alliance dont parle le pape François dans la date aussi, avec les créatures. Ce n'est pas des dons particuliers. Je vais sortir un terme qui va parler à certains. Par exemple, des dons chamaniques. Il y a des gens qui, de plus en plus de gens s'intéressent à tout cet univers-là, la médiumnité, le chamanisme. Nous, on n'est pas là-dedans. On est complètement dans cette foi. On a toujours eu notre évêque qui était avec nous,
Monseigneur Camiade.
Monseigneur Turini en premier, quand on a commencé à s'intéresser à tout ça. On a été poussé vraiment à lui en parler. Parce qu'au départ, c'était privé, c'était entre nous, et puis voilà, dans l'Église, il y a une grande liberté, donc on peut vivre ça sans forcément parler à un évêque. Mais à un moment donné, on s'est senti poussé vraiment d'aller vers l'évêque, qui nous a toujours soutenus, qui le fait encore. Monseigneur Camiade nous a recommandé, dans une lettre officielle, il a recommandé ce qu'on vivit, mais en même temps, il dit, voilà, ça reste dans l'ordre du privé pour l'instant, et c'est très bien comme ça. Donc, on a toujours voulu être dans l'Église, mais avec, évidemment, une vocation plus particulière pour véritablement vivre de cette relation avec toute la création, toutes les créatures, dans un Christ qui, dont l'influence, comme dit Teilhard, est universelle.
Donc vous êtes parti de cette petite fraternité avec cette mission de prière, vous avez donc écrit cette charte et puis vous vous êtes tourné vers Fabien Revol, donc à vos côtés, théologien et philosophe. Quel est précisément votre rapport, Fabien Revol ?
Quand ils m'ont contacté en 2016, c'était pour me demander un accompagnement théologique pour les aider à exprimer leur expérience spirituelle dans pour que ce soit que ça s'inscrive bien dans la tradition chrétienne et pour que ça soit pour que ça soit réfléchi théologiquement et je rajouterai aussi philosophiquement et j'ai trouvé intéressant cette démarche parce que parmi la diversité des groupes chrétiens qui s'intéressent à l'écologie, ce groupe des petits frères et petites sœurs de la création est un groupe qui présente l'originalité de ne pas partir de la crise écologique, mais de partir d'abord d'une expérience spirituelle de leur relation au Christ. Et c'est assez fantastique parce qu'ils illustrent parfaitement le paragraphe 217 de Laudato Si, dans lequel le pape François dit que les chrétiens devraient tirer les conséquences de leur rencontre avec le Christ en ce qui concerne leur relation avec la nature. Et donc cette fraternité-là, c'est son point de départ, la rencontre avec le Christ et la découverte de tout ce que cela implique, à la fois sur le plan spirituel d'abord, puis progressivement sur le plan éthique, de leur relation avec l'ensemble de la création. Et alors en 2016 et 2017, après avoir lu quelques-uns de leurs textes, je leur ai présenté un auteur qu'ils ne connaissaient pas encore, qui s'appelait Jean Baster, et qui justement... Dans ses écrits qui n'étaient pas vraiment encore connus, il y avait un petit texte qui s'appelle « Une esquisse pour les petits frères et petites sœurs de la création ».
C'était assez providentiel quand même. Hein.
Oui, voilà, exactement. Et ils se sont reconnus dans ce texte en disant « C'est ça qu'on vit déjà et en fait c'est ça qu'on veut vivre et donc on va... vraiment prendre l'orientation des petits frères et petites sœurs de la création dans l'esprit d'Hélène et Jean Baster.
Alors ce centre donc, s'appelle maintenant Centre Hélène et Jean Baster. Je signale à nos auditeurs ce petit ouvrage qui vient de sortir aux éditions Nouvelle Cité dans la collection Prier 15 jours avec. Donc, Prier 15 jours avec Hélène et Jean Baster, les pionniers de l'écologie intégrale. Et donc c'est vous qui avez dirigé cette publication.
En collaboration avec deux membres de la fraternité, des petits frères et petites sœurs de la création, oui.
Voilà, donc un ouvrage à découvrir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Fabien Revol, sur ces deux personnes, ce couple finalement qu'étaient Jean et Hélène Baster?
Oui, ils sont connus aujourd'hui dans, du grand public chrétien pour leur engagement dans la, une pensée chrétienne sur l'écologie, en langue française, parce qu'il y en a beaucoup dans d'autres langues, enfin, et surtout en anglais. On connaît beaucoup, dans les années 80 et 90, Jean-Marie Pelt.
Ah oui.
Mais on peut dire que l'alter ego de Jean-Marie Pelt, c'est Jean Baster et puis son épouse, en termes de production de littérature à dimension théologique. C'est-à-dire que Jean Baster, dans les années 1990, après le décès d'Hélène en 1992, a décidé d'écrire les raisons théologiques et les raisons chrétiennes de leur engagement pour la protection de la planète. Depuis les années 70, Hélène et Jean étaient engagés dans des associations, dans des ONG de protection de la, des animaux, des associations de protection de la nature, mais aussi de solidarité. Ils ont toujours eu conscience d'avoir fait ça parce qu'ils étaient chrétiens. Et ils ont approfondi des textes ensemble, chrétiens, ce qui n'était pas forcément beaucoup lu dans le christianisme et dans l'Église catholique. Et puis, ils se sont, dans les années 90, après le décès d'Hélène, Jean s'est dit « Mais il faut que je continue notre engagement de couple et je vais le faire en écrivant. » Et comme c'est Hélène qui l'a tiré dans la militance écologiste, c'est sous son inspiration, dans la communion des saints, qu'il décide d'écrire.
Et donc, il a écrit un certain nombre d'ouvrages.
Une quinzaine d'ouvrages dédiés à l'écologie chrétienne, comme, selon son expression, qui sont co-signés avec Hélène.
D'accord.
Même si c'est posthume.
Ah oui, c'est beau cette communion des saints. Ouais.
Et donc, c'est une posture théologique qui anticipe sur Laudato Si à plusieurs chefs. Le premier, c'est de dire que la vocation chrétienne à la sauvegarde de la maison commune, de la création, découle vraiment de la foi chrétienne et que ce n'est pas une option ou une particularité qui pourrait ne pas avoir lieu. Au contraire, on est pleinement chrétien, on vit sa vocation baptismale dans la mesure où on vit sa vocation de gardien de la création.
Mmh.
Et donc à partir de cette thèse, Jean mobilise tous les éléments de la tradition théologique et spirituelle du christianisme, c'est-à-dire avec une approche œcuménique aussi, pour donner à ses contemporains et ses concitoyens toutes les bonnes raisons de s'engager sur ce champ-là, en disant qu'on l'a oublié. Et donc, il faut faire ce travail de retour sur la tradition pour nous réapproprier cette tradition spirituelle et théologique.
Vous disiez que Jean Baster avait lu un certain nombre d'auteurs que la tradition, dans les années 90, n'utilisait pas ou auxquels il n'avait pas recours. Quels sont ces auteurs?
Alors, il fait beaucoup référence à Charles Guay, Léon Blois, mais aussi à Paul Claudel, déjà plus connu, Charles Péguy aussi, mais parce qu'il était spécialiste de Charles Péguy. Mais beaucoup, au niveau écologique, il a plus valorisé les travaux de Paul Claudel. Pour dire, il y a une sorte de rupture dans la tradition théologique. C'est plus les littéraires, les auteurs littéraires catholiques chrétiens qui se sont appropriés le souci de la création que les théologiens au XXe siècle. Voilà, donc c'est par ces auteurs-là qu'il a rattrapé et qu'il a récupéré la tradition qui précédait ces auteurs par la suite.
Quel accueil a reçu Jean Baster avec ses 15 ouvrages?
Un accueil modeste, c'est-à-dire que c'est assez étonnant parce qu'il a dans l'Église catholique de France, il a tenu une position très prophétique, qui a inspiré un certain nombre de chrétiens engagés aujourd'hui, qu'on se connaît un peu, on se connaît tous, enfin un peu sur les doigts de la main. Alors un certain nombre de ses livres sont en rupture chez l'éditeur, donc ça veut dire qu'ils ont été achetés, qu'ils ont été lus. On aimerait bien qu'ils soient réédités d'ailleurs. Mais il a toujours souffert d'un manque de reconnaissance, même si c'est entouré de nombreuses aides dans la hiérarchie catholique, il les appelait ses protecteurs, ses évêques protecteurs. Il était en relation avec avec plusieurs évêques en France, avec des membres de la Curie romaine aussi qui l'ont soutenu. Mais son impact, on est peut-être en train de le mesurer maintenant. C'est-à-dire qu'il m'a toujours dit, avant son décès, en 2013, que lui ne verrait pas les petits frères et petites sœurs de la création. Mais il m'a dit que moi, je les verrais.
Et de fait, voilà, vous les voyez et notamment, ouais, vous les côtoyez dans ce centre.
Et je les accompagne.
Et vous les accompagnez dans ce centre, Hélène et Jean Bastet. Quel point précisément de la doctrine, mais en tout cas des apports de Jean Bastet sont présents dans Laudato Si, l'encyclique du pape François?
Alors, d'une part, on peut dire en général la dimension cosmique de la foi, c'est-à-dire que la foi chrétienne, ça ne concerne pas que la dramatique humaine, mais ça inclut tous les éléments de la création. Donc le pape François, dans le chapitre 2 de Laudato Si, s'inscrit dans cette vision, cette visée théologique. Il y a le rapport à saint François d'Assise qui est très commun. Jean Bastet se situait comme un petit frère de saint François. Et il a été en dialogue beaucoup avec les franciscains et même en dialogue assez musclé avec les franciscains. Le troisième élément d'anticipation, c'est à l'image de saint François d'Assise, c'est la critique en fait de la société de consommation. Il appelait pas ça le paradigme technocratique comme le pape François, mais l'idée de réduire l'être humain et le projet de l'humanité et de la production matérielle de biens à la médiation de l'argent et la consommation, pour lui c'est un péché contre l'évangile chez Jean, on trouve cette expression. Donc la critique de la société, alors tous les deux, François et Jean, s'appuie sur des auteurs précédents, hein, comme Ivan Illich, Jacques Ellul, Romano Guardini. C'est le fond commun de la critique de la société technicienne, de la civilisation technicienne du XXe siècle. Donc c'est pas étonnant qu'on retrouve ces aspects à la fois chez Jean et chez pape François. Mmh. Voilà, pour faire bref. Et puis donc le rapport entre clameur de la terre et clameur des pauvres, qui est un lieu donc important. Quand Jean engueule les franciscains, il leur dit voilà, vous êtes très engagés sur la question de la pauvreté, de la misère, mais vous ne voyez pas que parmi les causes de la misère, il y a les questions écologiques, et il faut que vous jetiez toutes vos forces dans ce combat aussi. Donc ouais, il y a déjà cette articulation était déjà présente chez Jean dès les années 80. Voilà. D'accord. On pourrait trouver d'autres points de connexion.
On pourrait d'autres, mais c'est déjà intéressant ce que vous nous avez dit. Alors, le centre Hélène et Jean Bastet est placé autour de trois piliers. La spiritualité pour des personnes en recherche ou des groupes, la formation pour les étudiants et le grand public, et l'accueil médico-social pour les familles ou les jeunes en difficulté. Parlons d'abord de ce lieu de prière, ce lieu de spiritualité. Qu'est-ce qui s'y vit précisément, Père Bertrand Cormier ?
J'ai sous les yeux un extrait de l'esquisse des petits frères et petites sœurs de la création rédigé en 2005, c'est ça, par Jean. Donc au départ, je vois un pôle, un centre, un cœur, quelque chose de très modeste mais de très radical, quelques personnes ayant une vocation religieuse et souhaitant un engagement total de prière et d'action, une petite cellule pauvre et puissante comme un germe. Voilà. Et autour d'elle, se reliant progressivement, d'une façon très libre, un vaste réseau d'initiatives très diverses, dont celle dont nous parlons. Pourquoi je cite ce passage ? Parce que justement, nous avons vraiment tenu à passer à l'action, en fait. Ce qui n'était pas forcément évident au départ, hein, parce qu'on avait envie de vivre des choses non seulement entre nous, même si on l'invitait facilement autour de nous, mais on proposait des petites choses, mais aller jusque-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une demande, qu'il y avait une demande, et que beaucoup de gens découvraient aussi cette forme-là. Et aussi, des gens ne la découvraient pas, mais découvraient le lien entre ce qu'ils ressentaient de leur prière dans la nature et la célébration. C'est une chose de prier seul au pied d'un arbre, c'est une autre de se réunir pour prier autour d'un arbre, voilà, sur la terre,
dans la nature,
voilà. Ça peut être la montagne, ça peut être... Et c'est encore une autre, de, en se réunissant, de célébrer un sacrement, en tout cas de faire découvrir cette dimension sacramentelle, ça veut dire à travers la rencontre et l'alliance, comme je disais, hein, et ce lien très fort ensemble avec des éléments de la création, entrer dans une relation particulière avec le Christ. Redécouvrir en quelque sorte et mettre un nom sur ce Christ-là que nous rencontrons ensemble. Je crois que c'est la base même de ce qu'on propose dans le pôle spirituel.
Et donc les personnes peuvent venir et vous les accompagner dans cette découverte et dans la place finalement de la prière, dans cette contemplation de la nature et cet voilà. échange.
Voilà, ça peut. Alors ce sont des temps. Il y a une partie un peu apport de fond. Donc Fabien nous a beaucoup déjà aidés. Il est intervenu plusieurs fois avec Saint-Hildegarde, Saint-François, la Pâque de l'Univers, on va en parler, et d'autres moments où cet apport nous permet, c'est vrai, un peu de poser les bases et de mettre des mots un peu plus justes sur ce qu'on va vivre. Et puis après, on permet aux gens de alors quand on peut le faire dehors en septembre et en octobre dernier, on a pu le faire, c'est encore plus fort, on a pu prier et même célébrer dehors. Moi, je pense à ce que Saint Jean-Paul II, on est dans la salle Saint Jean-Paul II, racontait lui-même de ces célébrations qu'il faisait dehors, déjà jeune prêtre, donc dans les années...
Quand il était dans la montagne.
Voilà, quand il sortait, il était sorti avec des jeunes en canoë, ouais. etc. Et les marches dans la montagne. Et c'est de cet ordre-là, finalement.
D'accord. Voilà. Alors, je vous propose que nous marquions une première pause après cette présentation du Centre Hélène et Jean Baster. Nous écoutons « Tout puissant bon Seigneur » interprété par la jeunesse franciscaine de Beach.
Toi le Très-Haut, tout puissant bon Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la louange, aucun n'est digne de te nommer, gloire à toi. À toi la gloire, l'honneur, la louange, aucun n'est digne de te nommer, gloire à toi, Dieu de l'univers. Louez le Seigneur, Dieu des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Gloire à toi, Dieu de l'univers. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, tous les astres de lumière. Vous, cieux des cieux, louez-le. Et les eaux des hauteurs, les cieux. Toi, le Très-Haut, tout puissant, bon Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, l'honneur, la louange. toi la gloire, l'honneur, la louange, au cœur des vignes de ta domaine. Gloire à toi, Dieu de l'univers.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
C'était la jeunesse franciscaine de Beach qui interprétait « Tout puissant, bon Seigneur ». Nous sommes en présence du père Bertrand Cormier et de Fabien Revol, venu nous présenter le centre Hélène et Jean Baster. Ce centre est non seulement un lieu de spiritualité, mais c'est aussi un lieu de formation. Fabien Revol.
Oui, il s'agit de proposer pour différents publics, de chrétiens ou de gens qui s'intéressent à la spiritualité, de l'écologie, de venir approfondir ces questions sous l'angle de l'audato si et de l'écologie intégrale. Et pour ce faire, on a plusieurs niveaux de formation en fonction du public et de ses disponibilités. On commence par un cycle de conférences. Alors cette année, on s'est posé la question, faut-il sauver ou sauvegarder la création? Est-ce que c'est la même chose? Et donc j'avais quelques intervenants qui ont traité ce sujet. C'était un cycle de conférences en ligne, donc c'est ouvert, c'était facilement ouvert et accessible aux quatre coins de la France et ailleurs. Mmh. Ensuite, on a une proposition phare de formation qui s'appelle le Campus Laudato Si, qui est en fait une formation qui a été créée et inaugurée dans le diocèse de Valence, dans la Drôme, et qui est un modèle de formation qui est en train de se répandre en France, dans différents diocèses qui commencent à le tester. Nous, dans le Lot, on est les deuxièmes à avoir lancé le produit. Quatre journées sur les quatre relations fondamentales de l'écologie intégrale, réparties dans l'année. C'est donc quatre fois 23 heures entre le vendredi soir 18h et le samedi 17h.
Vous pouvez peut-être rappeler ces quatre piliers ?
Les relations à Dieu, aux autres, à soi et à la création. Et donc chacune des sessions s'intéresse à deux choses. Quelles sont nos entraves? Quelles sont les entraves donc, qui nous empêchent de vivre cette relation à cause du paradigme technocratique, c'est-à-dire les conséquences d'un mode de pensée moderne, productiviste et consumériste? Ensuite, dans un deuxième temps, quelle est la bonne nouvelle de l'écologie intégrale sur cette relation? À partir des grands textes de l'écologie intégrale que sont Laudato Si, Querida Amazonia, Fratelli Tutti et maintenant Laudate Deum. Et puis ensuite, troisième moment, comment on peut illustrer concrètement sur le terrain cette relation. Et donc c'est sous l'ordre, soit une visite de terrain, soit des témoignages de gens qui viennent nous dire ce qu'ils font dans leur association. Par exemple, on va avoir une association de migrants donc la semaine prochaine pour parler de la relation aux autres. Et donc ça, c'est la structure, on va dire, de chacun de ces trois temps. Et entre ces trois temps, il y a des temps de prière, des temps de travail en groupe, d'approfondissement, des temps de solitude dans la création. Voilà. Ensuite, on va proposer des cours sur le mode de cours semestriel, dont j'espère un jour seront validés par des institutions catholiques pour créditer ces cours pour des étudiants. Donc l'idée, ce sera de faire ça plutôt en ligne. Pour
et ça, ça commencera à peu près à la rentrée.
On va essayer quelque chose au mois de juin, là.
Juin déjà.
Mm-hmm. Ouais. Et puis ensuite, l'année prochaine, alors j'ai un partenariat avec des institutions catholiques. Je suis enseignant, donc maintenant c'est les facultés Loyola de Paris.
Mmh. Et donc, anciennement Centre Sèvres.
Voilà, donc on a deux choses avec eux. Moi je suis chargé de cours en ligne pour le parcours Croire et Comprendre, Laudato Si. Et puis on a un projet de création de DU d'écologie intégrale, interuniversitaire entre Lille, les facultés Loyola et le Centre Hélène et Jean Baster.
Voilà des beaux projets, hein.
Ben oui. Et l'été prochain, donc en 2025, on est en train de développer un projet de formation spécifique pour les ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres, sur 48 heures, donc avec une dimension plus pastorale et liturgique, pour les aider à intégrer cette dimension dans leur activité de ministre ordonné dans l'Église.
Mmh. Et vous, Père Bertrand Cormier, vous vivez justement cette relation, puisque vous êtes curé, on l'a dit, de ce groupement paroissial Souillac-Martel, oui c'est ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être aux prêtres qui nous écoutent aujourd'hui, comment vous vivez ce lien avec la création en tant que prêtre ?
Ça tombe bien puisque j'ai soutenu mon mémoire de Master 2 sur l'offrande eucharistique comme source et lieu d'une théologie de la création, où finalement, à partir de ce qu'on appelle l'offertoire, mais maintenant ça s'appelle la préparation des dons, on redécouvre depuis la réforme liturgique, on a rajouté une phrase qui vient de la tradition juive en grande partie. Le pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Et c'est très théilardien d'ailleurs, hein, fruit de la terre et du travail des hommes. Alors la liturgie a insisté énormément, la réforme liturgique à Vatican II, sur la place de la parole de Dieu. Donc comment cette parole, finalement, le verbe se fait chair, et il se fait chair et nourriture à partir du travail des hommes. Si on regarde bien la liturgie, on voit que normalement, le pain, il vient de chacun de ceux qui sont là. Chaque participant devrait apporter finalement son propre pain, c'est-à-dire le fruit de son travail, sa propre offrande, pour n'en faire qu'une sur l'autel. Et il devrait y avoir qu'une seule hostie, en fait, en théorie. Voilà. Ce n'est pas toujours possible. Et puis le pain, il ne vient plus de chez les gens.
Mais c'est aussi une façon de signifier qu'il y a aussi une offrande de soi-même, de chacun.
Voilà, chacun apporte ce qu'il est. Et il est, à un moment donné, quand le pain est donné, normalement, il devrait y avoir aussi une procession des offrandes pour bien montrer la participation active donc, du peuple, comme dit la liturgie. Et donc, quand le prêtre reçoit ce pain, et bien, il le présente et il le dépose. Tout est là. En fait, tout est là. Et à partir de là, le prêtre doit toujours rester dans cette conscience tout au long de la prière eucharistique jusqu'à la communion, que cela nous est on est dépossédé de cela. C'est l'esprit du Seigneur à travers le ministère de l'Église, donc à ce moment-là, du ministre ordonné, prêtre ou évêque, que les paroles du Christ vont être prononcées sur ce pain, fruit de la terre et travail des hommes. Donc ces paroles qui viennent de la tradition, qui viennent de la parole de Dieu, eh bien elles impactent ce pain et elles le transforment, elles le transsubstancient, si on veut être très théologique. Donc c'est toute la création aussi qui est impacté finalement par cette transformation et qui fait que à un moment donné quand on communique quand on reçoit la communion, ben tous ceux qui communient sont chargés de cette transfiguration, de cette transformation, de cette transubstantiation, sont chargés de permettre à la création aussi de recevoir les fruits de cette transubstantiation.
Et donc là on retrouve cet engagement en faveur de la défense finalement de la sauvegarde de la création.
Voilà, l'intendance, hein, par exemple, le pape François parle d'intendance, gardien de la création. C'est à ce moment-là qu'on reçoit vraiment cette mission de la part même du Seigneur à travers le ministère de l'Église dans le sacrement de l'Eucharistie.
Mais parmi les modèles qui sont donnés dans la pensée théologique sur l'écologie, il y a, pour penser l'être humain dans la création, il y a le modèle de l'être humain prêtre dans la création. Et je pense qu'il y a tout un volet à déployer pour montrer comment, dans la vocation baptismale de prêtre, prophète et roi, eh bien, cette dimension sacerdotale du chrétien peut être vécue dans la création, mais aussi, sous l'angle ministériel, comment le prêtre ministre ordonné, dans la célébration des sacrements, en particulier l'Eucharistie, montre un peu le modèle de la réalisation du sacerdoce de chaque personne dans la création. Mmh. Puisque toute la vocation de l'humain dans la création, c'est de mener la création à Dieu. Dans la domination et le service de la création, c'est amener toute la création, toutes les créatures en Dieu. C'est le sens profond de l'être à l'image de Dieu. Et je pense qu'il y a toute une dimension ministérielle à creuser dans l'Église pour aider les chrétiens à vivre cette vocation.
Ah oui, un beau sujet à creuser, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission Vivante Église. Un autre objectif du Centre Hélène et Jean Baster dans le Lot, c'est la recherche. Vous avez un certain nombre de personnes qui viennent et qui recherchent ensemble cette façon d'être au service finalement de l'écologie intégrale.
Oui, il s'agit en fait de continuer le travail d'Hélène et Jean Baster, de chercher profondément les raisons chrétiennes, toutes les bonnes raisons que les chrétiens ont d'être en première ligne sur la sauvegarde de la maison commune. Et c'est un travail de réappropriation de la tradition, et donc tradition biblique, tradition patristique, théologie médiévale, et puis aujourd'hui toute la recherche dans le monde qui existe sur cette thématique. Et donc j'ai réussi à réunir un groupe d'une quinzaine de collègues, des professeurs émérites, des doctorants et quelques aussi collègues en activité pour une réunion mensuelle en ligne de 2 heures. Et on a un thème pour l'instant qui va donner lieu à une problématique. Le thème, c'est le rapport entre anthropologie et cosmologie, donc l'être humain et la totalité de l'univers, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie de l'écologie. Donc c'est cette façon qu'a la théologie aujourd'hui de s'approprier l'écologie comme un objet, et qui est donc ma spécialité.
Et ces chercheurs sont tous des théologiens ou pas forcément, pas nécessairement ?
C'est une équipe interdisciplinaire, effectivement, avec des philosophes, des juristes, des médecins, des biologistes de l'écologie, une climatologue, géographe, et donc des théologiens, alors moralistes, biblistes, dogmaticiens. Donc c'est donc une interdisciplinarité qui est vécue. Puis aussi, on a un ingénieur en physique de Supaéro Toulouse qui nous a rejoint. Et puis voilà, c'est parce que la théologie de l'écologie n'existe pas sans l'interdisciplinarité. L'écologie intégrale est fondamentalement une approche interdisciplinaire de la réalité humaine dans le monde. Donc c'est forcément un travail d'interdisciplinarité.
Donc ça, c'est ce travail de recherche qui est fait au centre Hélène et Jean Baster.
C'est le premier axe, il y en a trois autres. Le deuxième, c'est la valorisation des travaux de Jean Baster. Donc là, on a un projet d'édition de textes qui sont soit inédits, soit très peu connus. Le troisième axe, c'est un groupe de travail recherche-action sur la liturgie avec le père Bertrand Cormier autour du thème des 4 temps de l'Église ou des rogations. Donc des vieux rituels qui ont été sortis du calendrier liturgique avec la réforme liturgique, mais qu'on essaye de revisiter sous l'angle des pratiques et de la spiritualité écologique.
Oui, puis ce sont les traditions populaires que les personnes apprécient qui peuvent les faire les raccrocher finalement à la foi.
Et ce qui fait que le pôle spiritualité du centre, ça sera aussi un lieu d'expérimentation pour ça. Donc il y a le lien entre recherche et expérimentation et pratique pastorale va avoir lieu. Et le quatrième lieu qui est en cours de constitution, c'est le dialogue entre bioéthique et écologie dans l'Église catholique, sous la forme d'une journée d'études annuelle qui se cherche un peu pour l'instant, mais voilà, on a le temps, on va la mettre en place.
Voilà, il vaut mieux prendre le temps pour bien construire tout ça. Un dernier pôle dont il nous faut parler ce matin de ce centre Hélène et Jean Baster, c'est cette vocation à devenir aussi un accueil médico-social. Vous avez parlé, Fabien Revol, tout à l'heure de la clameur de la terre, clameur des pauvres. On imagine que c'est un petit peu dans cette ligne, Père Bertrand Cormier.
Voilà, il y a un terme qu'on n'a pas beaucoup employé jusqu'à maintenant, c'est l'écologie intégrale. Hein. On l'a dit au début, c'est important, cette écologie intégrale, une expression qui est entrée maintenant dans le discours social de l'Église, hein, dans la ligne du développement intégral des années 70. Et donc, on s'est dit, l'action elle ne peut pas être qu'une action spirituelle, pastorale, liturgique, ou intellectuel avec tout ce qu'on vient de dire au niveau de la formation, mais aussi une dimension très humaine. Parce que ça fait partie de notre histoire aussi de fraternité. On a accueilli il y a quelques années des adolescents. Et donc, on s'est dit, des adolescents en rupture complètement de société, confiés donc par le biais d'une association à nos bons soins. On a quelques membres de la fraternité qui ont des compétences, hein, qui sont éducateurs spécialisés. Il y en a même un qui est formateur, une autre qui se forme en psychanalyse, mais qui est aussi, qui a une grande expérience dans l'éducation spécialisée, qui fait l'accueil d'enfants. Et donc le département, à cause de ces gens-là, et grâce à ces membres de la fraternité, le département est intéressé par notre projet. Alors peut-être moins médicaux que social. Ça, on pense que pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment on écoute au tout début. C'est pas moi qui m'en charge, j'ai pas les compétences, mais on écoute au tout début et on s'oriente vers un partenariat avec le département pour l'accueil d'enfants qui sont vraiment en grande, grande difficulté. Je ne veux pas ces détails, mais bon, malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup d'auditeurs comprendront ce que je dis. Et avec aidé par une association nationale qui s'appelle R de Famille, qui est habituée aussi à faire que cet accueil des enfants ne se fasse pas sans les parents.
Ah.
Même parfois avec un des deux parents qui est très, très déficitaire, voire voilà, pire. Mais on réfléchit à tout ça. Voilà, pour l'instant, on en est là.
Vous nous en reparlerez quand les choses seront un petit peu, un peu plus mises sur pied. Notre émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup, Père Bertrand Cormier et Fabien Revol, d'être venus depuis le Lot pour cette émission, évidemment en train, je n'ai même pas besoin de le préciser. Pour tout renseignement complémentaire et connaître les prochaines formations, consultez le site centrehelenetjeanbaster.fr, donc Centre Hélène et Jean Baster tout attaché. Et puis évidemment, vous pouvez réécouter cette émission Vivante Église en podcast sur le site radioprésence.com, rubrique Foi puis vie de l'Église, la télécharger, la diffuser à vos réseaux ou la réécouter ce soir à 21h. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci
au revoir.
Beaucoup, au revoir.